Salut Pierre-Yves.
Salut.
OK, donc la bourse est ouverte, mais il n'y a rien de garanti.
Ouais, la bourse est ouverte au Canada, mais légèrement ouverte. Dans le fond, on est presque au neutre. Et aux États-Unis, légèrement dans le rouge, mais depuis quelques jours, on est en hausse. Et pourquoi je te parle de ça? C'est pour relativiser un petit peu quand on parle de voir des visions long terme. La bourse au Canada a beau avoir baissé de 37-38% par rapport au sommet de l'indice par rapport au bas. Maintenant, on est plus rendu au net autour de 24. Donc, tu vois qu'on a un peu rattrapé. Donc, les gens qui vendent dans une panique, parfois se font rattraper par le fait qu'ils perdent un 10% de remontée. Mais là, il faut faire attention. Hein. On est peut-être en mode chameau. On a peut-être vu un creux. On monte. Oui, tu sais, un chameau, ça a deux bosses. Des fois, la bosse, c'est pareil. Ça monte, ça redescend, ça remonte, puis ça redescend après. Donc, faut pas avoir peur de perdre un 10-15% encore et faut être capable de vivre avec ça. Et aux États-Unis, on dit comment ça fait qu'il y a ça? Mais parce que les Américains ont une espèce d'impression en bourse qu'après les interventions gouvernementales, après l'injection d'argent, qu'on a dévalué le marché pour l'instant et que on a vu quand même une bonne partie du mauvais côté de la COVID-19, mais on dirait qu'aux États-Unis, en fait, quand on écoute le message présidentiel, puis la réalité de ce qui se passe, on dirait que c'est deux choses. Hein. Je pense pas qu'à part qu'il va revenir avec les églises pleines, juste te dire, tu sais, comme il avait pensé.
Ouais. Mais il s'est dédié après.
Il s'est dédié. Ouais. Je peux te dire une chose, c'est qu'il va avoir probablement, comme on dit sur les analystes, chez Goldman Sachs, on dit moins de dividendes, moins de rachats d'actions cette année, qui a aidé à augmenter la valeur de la bourse. Et donc, on va suivre ça, mais quand on me demande chaque semaine, quelqu'un qui m'écrit, c'est-tu le temps d'investir? Ben, c'est toujours le temps d'investir, mais si vous investissez ponctuellement, puis je vais le répéter, vous allez acheter des hauts puis des bas de courbe et vous allez comme ça avoir un coût moyen pondéré de portefeuille qui a du sens. Trop de gens veulent faire des coups de circuit, veulent acheter bas, au plus bas de la courbe, puis acheter d'un coup, puis essayer de faire un gros coup de circuit. Mais un gros coup de circuit sur une carrière, c'est quoi? C'est un peu pareil. Dans le fond, allez-y tranquillement, pas vite, chaque jour, puis tout va bien aller.
T'es mieux de te rendre sur les buts que de swinguer dans le vide.
Moneyball, Patrick. T'es mieux d'avoir 4 coups sûrs qu'un circuit aux 6 ans.
Et dans Moneyball, on faisait beaucoup l'apologie aussi. Ça, c'est pour les gens qui se joignent à nous. Là. Moneyball, c'est un livre qui a un peu révolutionné le baseball. Puis on a vu que c'est pas juste les gros frappeurs qui sont importants dans une équipe.
Non, c'est que statistiquement, il faut que tu te rendes sur les buts et c'est ça qui est payant.
OK, parle-nous de... Tu penses que notre rapport aux liquidités avec tout ça va changer?
Ouais, changer, oui, parce que avant la COVID-19, il fait pas longtemps, là, on parlait de pénurie de main-d'œuvre, on parlait de prendre du risque. Puis j'en parle encore. Moi, je suis un adepte de prendre du risque puis de dire tu payes ton financement pas cher puis tu l'investis à plus cher. Mais dans un cas de pandémie, on vient de réaliser une chose. Les revenus peuvent arrêter drastiquement pendant que les paiements continuent. Mm-hmm. Et c'est pas juste un risque moyen pondéré. Je te donne un exemple. Un propriétaire immobilier qui a 20-30 portes, quand tu as 10 portes sur 30 qui arrêtent de te payer, tu as un choc de liquidité. Un restaurateur qui se dit « j'ai un mauvais mois ». Non, t'as pas un mauvais mois, t'as pas de mois. T'sais, donc, t'as plus juste des mauvais chiffres d'affaires, t'as plus de chiffres d'affaires. Donc, il y a l'espèce de côté qu'on prend du risque puis on y va peut-être changer. Tu sais, avant la pandémie, tu m'aurais dit « est-ce que tu serais game d'aller à la banque, t'endetter pour 1 million pour lancer une entreprise? » Ben ouais. Après la pandémie, est-ce que tu es prêt à t'acheter une compagnie que si tout va bien, tu vas arriver juste à flot la première année, puis ça se peut qu'il y ait une pandémie qui ferme ton resto. Hop là! Tu sais, c'est un risque qu'on n'avait pas mis dans notre arbre de décision au niveau de l'entrepreneuriat. Et ça va influencer aussi les jobs. Imagines-tu, tu es physiothérapeute. Tu te fais offrir un job dans une clinique privée ou dans le gouvernement. Avant, c'était comme, ben, je regarde les salaires, je regarde les conditions, je regarde la possibilité de m'investir dans la compagnie privée. Et là, tu te dis, attends une minute, là. En cas de pandémie, j'ai mon régime de retraite, ma job pareil. Puis j'ai des avantages sociaux, puis j'ai des heures. Gouvernement. Tu sais, l'espèce de croyance que réalise tes rêves, ça descend aussi. Il y a beaucoup de gens qui font ce constat-là, je le vois dans des articles de journaux, je le vois dans des blogs, les gens qui disent « je voulais vivre la vie des rêves, j'ai tout lâché pour vivre ma vie, puis revivre mes grands rêves, puis là, whoops! » C'est comme si on avait vécu toi, t'es un X, Patrick? T'as vécu ça, toi? Les périodes pas de job, que tes amis avaient pas de job, qui étaient précaires, les plus vieux peut-être un petit peu. Il y a eu cette période-là que les plus jeunes n'ont pas connue, c'est-à-dire des crises économiques, un manque de travail, du chômage, des taux d'intérêt élevés. On ne connaît pas ça quand on a 30 ans et moins.
Les taux d'intérêt élevés, écoute, moi, je me souviens de mon père qui s'arrachait, et sa génération, là,
oui.
qui s'arrachait les cheveux, les taux d'intérêt à 20 %.
Même toi, Patrick, tu as connu sûrement du 8, là.
J'ai connu du 8, puis on trouvait que c'était élevé, mais on trouvait qu'historiquement, c'était pas pire, là.
Oui.
Mais je me souviens de l'époque où on disait que ça ne descendra pas plus bas que 5.
Mais t'imagines-tu, là, t'es quelqu'un qui vit de l'industrie du voyage, puis tu prends des photos de toi, puis t'es représentant, puis mm-hmm. tu peux, pac, mm-hmm. du jour au lendemain, ça n'existe plus. T'imagines-tu la personne qui vit de... Moi, j'étais un coach d'idéal. Je suis un optimisateur de bonheur interne, puis je fais des séances de fin de semaine, tout ça. Puis là, bouf, du jour au lendemain, j'en ai plus.
Pierre-Yves, ce que tu me dis, là, c'est que les gens risquent, après ça, d'être beaucoup plus conservateurs avec leur argent.
Bien, conservateur peut-être, mais surtout d'être beaucoup plus... D'être un peu moins méprisant envers le 9 à 5 ou envers les jobs sûrs ou envers les... Ou être un petit peu plus loin du grand rêve idéaliste puis d'être un peu plus proche de... Si on me paye pour faire un job, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin réel derrière. Et tu vois, pendant la crise de la COVID, que avoir une business en épicerie, tu vois très bien que t'es beaucoup plus proche des besoins de base des gens et ça pondère ton risque. Alors, demain matin... Si je te dis, t'aimes-tu te partir à un gym ou une épicerie, tu vas peut-être me dire une épicerie. Tandis qu'avant, tu m'aurais peut-être dit un gym. Tu comprends?
Oui.
La nuance. Maintenant, on est conséquent avec le risque. On est conséquent avec le risque de liquidité. Et potentiellement, ça va influencer le côté entrepreneurial qui était très, très, très à la mode dans les derniers mois. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, sais-tu, pour moi, c'est pas fait pour moi de pas être capable de dormir.
Penses-tu qu'on va réévaluer notre rapport avec l'épargne? Puis je m'explique, OK? Moi, quand ma mère voulait s'acheter des meubles, là, je te parle de 1980, 82, là, elle faisait quelque chose d'un peu inusité. Elle mettait de l'argent de côté.
Ouais.
Et aujourd'hui, il me semble que l'épargne, c'est de payer, d'aller s'acheter un frigo, d'aller s'acheter un divan, puis de le payer par mois.
Ou mettre sa marge de crédit. On ne calcule plus le coût de financement parce qu'il est faible. T'sais. Par rapport à une autre époque, tu as raison. Je suis peut-être pas tant que ça, Patrick, parce que il y en a un pour moi, quand tu t'achètes des électros neufs puis tu commences ta vie, il y en a beaucoup qui financent. Mais ce que ça risque de changer, par contre, c'est de te dire, OK, j'ai encore plus besoin d'un coussin qu'avant, pas pour épargner pour des meubles ou quoi que ce soit. J'ai besoin de liquidité. Je vais continuer à avoir des comptes fournisseurs puis de payer des affaires à tempérament. Mais je vais avoir un 3 000 à 4 000. Je veux plus que ça m'arrive, cette affaire-là de retourner chez mes parents quêter, puis là, je peux même pas aller leur quêter. Ils ont 70 ans, tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
peux pas aller chez eux. Mais il y a ça, là, ce changement de paradigme de il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours des jobs, il y aura toujours de quoi. Et là, du jour au lendemain, 30-40% du monde se retrouve à se faire dire tu sais quoi, tu ne peux plus exercer d'activité professionnelle. OK, jusqu'à quand? Je sais pas. Et vous me garantissez-tu que je vais revenir? Je sais pas. Puis dans quelles conditions? Je sais pas. Ma business va s'exister? On n'en a aucune idée. Le facteur incertitude et le facteur confiance viennent en prendre pour son rhume. Et ça, c'est ce qui vient de changer.
Merci, Pierre-Yves. On s'en parle demain. OK, 17h39 au retour, on parle des télés avec les accros. Et vous dire que oui, un peu plus tard à l'émission, on va parler avec notre ami Ricardo, parce que Dr Arruda a dit dans sa conférence de presse aujourd'hui que c'était pas le moment de faire un gros jambon aux ananas, un classique du temps de Pâques. Bon, on va demander à Ricardo c'est quoi la meilleure façon d'apprêter un jambon de Pâques, 17h39.